Une œuvre, Elsa Schiaparelli, 10 septembre 1890, 13 novembre 1973. Elle a nommé son autobiographie « Shocking Life ». Choquant, cet ouvrage de poésie érotique, Arethusa, qui lui valut, dit-on, à l'âge de 20 ans, d'être mise au couvent. Choquant, ses motifs de tatouage, squelette ou faux col. Choquant, d'étranges matériaux, comme ce rayon froissé, si proche de l'écorce des arbres, ou le rhodopane, un tissu transparent à la fragilité cristalline. Choquant, ce poudrier en forme de cadran de téléphone. Choquante, la combi-pantalon et ses énormes zips, ou la jupe-culotte qui scandalisa l'Angleterre des années 30. Choquant, ou bien simplement le fruit d'un esprit libre, amusé par le surréalisme et les extravagances d'un Salvador Dali qui dessine pour elle un homard géant, couleur sang, à installer sur le devant immaculé d'une de ses robes. Une vie, une œuvre, Elsa Schiaparelli, Shocking Life, par Christelle de Polotech et Ghislaine David.
Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Dali, hein?
Alors, celle-ci. Ouais. Je crois que les gants.
Avec les ongles?
Oui, c'est lui, non?
Non.
Non, ah. Ils sont incroyables. Non.
Mais le tailleur qu'elle portait, le tailleur qui est accessoirisé avec les gants, est un tailleur réalisé avec Dali. Ils ont commencé à travailler ensemble en 1935. Et la dernière collaboration, c'est après la guerre, pour le flacon Le Roi Soleil, qui est un flacon qui date de 49, 8 ou 9, je crois. Et c'est la dernière collaboration entre Elsa Schiaparelli et Salvador Dali.
Un jour, j'étais dans l'appartement de Schiaparelli, enfin plutôt là-haut dans les ateliers où elle travaillait, et j'ai demandé à quelqu'un, pas qu'il l'avait connu, mais qui connaissait très bien l'affaire, j'ai dit, mais elle était haute comment? Et il m'a montré, avec le doigt comme on fait d'un enfant sur une porte, il m'a dit, tu sais, elle arrivait, attends, il m'a dit, elle faisait ça, elle arrivait là. Et j'ai vu qu'elle m'arrivait au sein, quoi. C'était vraiment une toute petite femme, et encore peut-être ça, c'était avec des talons.
Je viens de Rome et j'ai habité Rome jusque vers 16 ans, 17 ans. J'ai été née dans une maison, tout ce qu'il y a de plus romain, dans un vieux palais romain, dans la très vieille partie de Rome. Et le souvenir que j'ai d'Italie, c'est justement un vieux palais avec beaucoup d'arbres de poivriers, beaucoup de mandarines.
Et les fontaines de Rome.
Et les fontaines de Rome et Garibaldi en haut, devant la fenêtre.
Enfant, Schiap était difficile. Cela n'a pas changé. Mais comme on lui répétait sans cesse qu'elle était laide et que sa sœur était jolie, elle finit par le croire et chercha les moyens de se rendre belle. Avoir le visage recouvert de fleurs, tel un jardin paradisiaque, ce serait merveilleux. Et puis aussi, si les fleurs poussaient sur son visage, elle serait la seule au monde à être ainsi, volubilis, capucine, pâquerette, en plein épanouissement. Non, sans mal, elle se fit donner des graines par le jardinier et elle les planta dans sa gorge, dans ses oreilles, dans sa bouche. Elle se disait qu'elle fleurirait plus vite sur son corps tiède que dans la terre. Et elle attendit le résultat. Hélas, dans ce monde matériel qui est le nôtre, le résultat fut qu'elle suffoqua. Affolée, sa mère fit venir le médecin pour qu'il enlève rêves et illusions à sa petite fille trop imaginative. Par la suite, un autre docteur devait découvrir que le premier collègue avait oublié, dans le nez de l'enfant, un morceau de coton devenu aussi dur qu'une pierre. Ce qui aurait pu assez mal tourner. Mais pour Schiap, la seule déception fut que les fleurs ne poussaient pas sur elle et ne la rendaient pas éblouissante.
Elsa Schiaparelli, Joking Life.
Stop, Look and Listen. C'est la première collection, printemps-été 1935. Elsa Schiaparelli retient l'attention. Couturière phare des années 30 et grande amie des surréalistes, Schiap, pour les intimes, a inventé les collections à thème, mais aussi le rose shocking et les hip apparents. Elle a imaginé, avec Salvador Dali, des chapeaux-chaussures et des gants ornés d'ongles en peau de serpent. Louis Aragon et Elsa Triolet ont même créé pour elle un collier aspirine. Les grains de beauté de sa joue figurent la grande ours et elle parle d'elle à la troisième personne dans son autobiographie. Pour en savoir plus, rendons-nous à l'adresse historique, 21 Place Vendôme, à Paris. Retrouvez Bertrand Guyon, directeur de style de la maison Schiaparelli qui a rouvert ses portes en 2012.
C'est une icône de la mode du XXe siècle, Schiaparelli. D'abord parce que elle a laissé derrière elle, en une période assez courte, hein, en réalité, parce que l'activité a duré à peu près 20 ans, on va dire, de décennies. Je parle pas de l'époque de l'occupation, si vous voulez, mais si on associe l'époque des années 30 avec ensuite, quand elle revient en France à partir de 45-46, ça représente environ une vingtaine d'années d'activité. Et en si peu de temps, c'est beaucoup, mais en même temps c'est peu, elle a vraiment marqué toute son époque. Et elle a influencé la mode, beaucoup de couturiers, beaucoup de créateurs. Saint Laurent, par exemple, s'en est beaucoup, beaucoup inspiré. Sa collection de 71, la fameuse collection qui a fait scandale en 71, est très inspirée de Schiaparelli. D'ailleurs, ils se connaissaient, Madame Schiaparelli s'habillait chez Saint Laurent.
Sophie Grossior, conservatrice générale du Palais Galliera.
Alors, le deuxième modèle présenté dans cette collection d'Elsa Schiaparelli, le deuxième manteau, est un manteau du soir en velours noir, réalisé avec des rayures bayadères qui ont donc un côté extrêmement géométrique, rayures jaunes, rouges et polychromes, qui montre bien ces raccords absolument parfaits. On voit d'ailleurs qu'il y a une couture particulièrement marquée en haut du manteau qui se poursuit en haut des manches et qui vraiment relève de cette géométrisation propre aux années 30 puis aux années 40 et fait partie donc de ces pièces emblématiques des années 40 que le Palais Galliera conserve.
Un jour, je posais des questions sur les écrivains. Je demandais à Céline, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous dites de Colette? Il a mis un temps à me répondre, il m'a dit, Colette, c'est un monsieur. Eh bien, moi, je le dirais aussi de Schiaparelli. Vous voyez, elle avait pigé le goût des hommes pour sa mode à elle.
Cette liberté dont vous parlez, Bertrand Guyon, est-ce qu'on peut la lier à son enfance, à son milieu Parce qu'elle ne vient pas du tout de la mode, elle n'a pas du tout fait d'école de mode.
Non, du tout. Elle n'avait aucune formation de mode. Elle était issue d'un milieu très cultivé. Son père, Celestino, était un professeur de langue orientale, spécialiste de langue orientale. C'était un homme érudit, très cultivé. Son oncle Giovanni Schiaparelli était un astronome très très célèbre qui a travaillé au laboratoire de Brera à Milan. Et elle allait très souvent le voir dans son observatoire. Elle avait aussi un cousin qui était philosophe. Enfin, c'était vraiment une famille issue de l'aristocratie, mais de la grande bourgeoisie romaine. Et c'était une petite fille qui avait certainement des envies de liberté. Dans sa biographie, elle parle de sa jeunesse, elle parle aussi de différentes anecdotes où elle faisait l'école buissonnière. Enfin bon. Mais c'était un milieu quand même assez, aussi certainement assez rigide, assez austère. Elle a quitté d'ailleurs sa famille assez tôt, hein, Elle est partie seule. Elle aurait pu très bien... Sa vie était presque toute tracée, quelque part, d'une femme de la grande bourgeoisie qui aurait pu être une femme de grand bourgeois et vivre d'une manière beaucoup plus tranquille et beaucoup plus apaisée. Or, elle a très très tôt souhaité quitter Rome, partir voyager.
Sa ville natale est très importante dans son travail, dans l'aspect à la fois baroque et aussi décoratif, ornemental.
Pamela Golbin.
Mais aussi, elle est issue d'une famille extrêmement cultivée. Elle a l'habitude, peut-être pas de collaborer, mais d'avoir des relations de partage avec des astronomes comme son oncle, mais aussi avec tous les aspects artistiques de son temps. Elle se retrouve ensuite à New York avec son mari. Pendant la Première Guerre mondiale, elle rencontre tous les artistes français qui étaient à New York pendant ce temps, entre autres Marcel Duchamp. Et donc, elle est déjà dans une sphère à la fois artistique et créative. Ce qui fait que quand elle arrive à Paris, c'est normal qu'elle s'entoure aussi de tous ces gens créatifs. Et Paris, durant les années 20, c'était ce mélange, ce métissage entre mode, art décoratif, art. Hein, il n'y avait pas du tout de limite ni de territoire. Et donc, ce mélange était tout à fait à l'ordre du jour pour Elsa, parce qu'à Paris, c'était son monde.
Sur ce parcours, oui, effectivement, elle va se marier, avoir un enfant aux États-Unis, et puis très vite son mari va disparaître dans la nature.
Il abandonnera rapidement sa femme et sa petite-fille.
Gogo,
oui. Son vrai prénom, c'était Maria Luisa.
Qui est plus raffinée.
Voilà. Mais elle était surnommée par Madame Schiaparelli Gogo. Tout le monde la connaît sous le prénom de Gogo. Gogo était une petite fille qui avait des problèmes de santé, ce qui n'a pas facilité la tâche. Et Elsa Schiaparelli s'en est beaucoup occupée. Elle a tout fait pour qu'elle puisse avoir tous les soins nécessaires. Mais élever une enfant seule, à l'étranger, à New York, durant l'époque de l'entre-deux-guerres, c'était pas forcément évident. Je pense que son milieu, sa culture, son éducation l'ont beaucoup aidé. Et ses rencontres aussi. C'est-à-dire qu'elle a très rapidement eu l'occasion de rencontrer la femme de Picabia, commencer à travailler à New York comme... Je crois qu'elle vendait des antiquités, elle faisait déjà des créations, des choses comme ça. C'était une femme qui déjà avait une âme d'artiste de toute façon.
Elsa Schiaparelli, vous êtes arrivée à Paris, vous étiez toute jeune. Vous n'avez pas pu acquérir du jour au lendemain la réputation qui est la vôtre.
Ça a été même excessivement difficile parce que je n'avais pas de métier. J'avais été écrivain, j'avais fait du journalisme, mais en arrivant dans un pays étranger, cette chose était un peu difficile. J'ai dû gagner ma vie immédiatement. Dans Paris, j'ai trouvé une atmosphère qui a répondu à l'atmosphère de ma naissance, n'est-ce pas, qui avait été comme une espèce de blé qui avait été semé et qui dans Paris est sorti. Comme une espèce de floraison qui est venue dans Paris et qui m'a donné la possibilité de travailler tout d'un trait où je ne savais pas travailler. C'est absolument l'aliment nécessaire, disons, si on parle en ultra-moderne, c'est la vitamine C. Paris, pour moi, c'est le centre de la balance du monde.
Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Marie-Sophie Caron, sur la genèse, c'est-à-dire sur ses débuts? Il y a notamment la rencontre avec Poiret qui apparemment est assez déterminante.
C'est une femme curieuse, avide de rencontres. Elle a eu un mariage raté parce que c'est une femme, une grande personnalité, et elle est libre.
Elle est libre, elle cherche des moyens pour subvenir à ses besoins. Elle va avec une amie rencontrer Paul Poiret. Et Paul Poiret voit en elle une femme de goût, une femme qui a de la culture. Elle avait au fond une esthétique à apporter du regard. Et Poiret a décelé, a identifié que c'était une femme qui pouvait tout à fait se lancer dans la mode.
Un jour, j'accompagnais une amie américaine, riche, dans le petit hôtel débordant de couleurs que Poiret avait Faubourg Saint-Honoré. C'était la première fois que je me rendais dans une maison de couture. Et tandis que mon amie choisissait des robes, je regardais autour de moi, éblouie. Silencieusement, j'essayais des vêtements et, oubliant complètement où je me trouvais, je me promenais, assez contente de moi, devant la glace. Je mis un manteau à coupe ample et large, qui aurait pu avoir été fait pour moi. Il était en velours d'ameublement noir, avec de grosses bandes éclatantes, doublées de crêpes de Chine bleu vif. Il était magnifique. « Et pourquoi ne l'achetez-vous pas, mademoiselle ? On le croirait fait pour vous. » Le grand Poiret en personne me regardait et je sentis le choc de nos deux personnalités. « Je ne peux pas, répondis-je. Il est sûrement trop cher et quand pourrais-je le mettre ?»« Ne vous préoccupez pas de l'argent, reprit Poiret. Et ensuite, vous pouvez porter n'importe quoi. N'importe où. » Puis avec un charmant salut, il me l'offrit. Le compliment et le don m'éblouirent. Dans mes pièces sombres, le manteau ressemblait à quelques lumières du ciel. J'eus bientôt toute une garde-robe, car il continuait à me donner de splendides toilettes dès que j'en avais besoin, et même lorsque je n'en avais nul besoin. Noir, brodé d'argent, blanche, brodé d'or.
Elle a ouvert sa maison aux 4 rue de la Paix en 1927. Mais elle avait déjà... Même avant d'ouvrir rue de la Paix, elle travaillait déjà rue de l'Université dans son appartement. Elle avait déjà tenté des expériences de petites maisons qui n'ont pas vraiment fonctionné tout de suite. Elle a aussi collaboré en tant que styliste. Elle a bien sûr commencé avec ses fameux tricots de maille. Je crois que les toutes premières pièces doivent dater des années 22-23.
Quand on a su, dans le milieu arménien,
Sophie Fontanelle,
qu'il y avait une femme qui s'appelait Schiaparelli,
auteur de La Vocation,
qu'elle avait fait la Coupe de Vogue, genre, je ne sais plus quand, hein, en 28 ou un truc comme ça, c'est très, très, très tôt, que cette femme-là, elle avait fait travailler des arméniennes pour faire des pulls, une maille que toute ma famille savait faire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de travailler la laine, une sorte de jacquard que ma famille savait faire. Ben, si vous voulez, on a eu l'impression qu'en fait, le luxe, c'était nous. Hein, voilà. Schiaparelli, c'était le luxe, l'originalité. Et puis tout d'un coup, il y avait un lien avec les migrants. Parce qu'elle était elle-même à sa manière. Bon, elle n'était pas si riche au début. Schiaparelli était un peu fauchée, hein, je crois.
Comment elle le découvre finalement, ce tricot en trompe-l'œil ?
C'est qu'un jour, une gardienne d'immeuble, qui était à côté de la place Vendôme, que connaissait Schiaparelli, alors pourquoi elle allait là, je ne sais pas. En tout cas, à un moment donné, elle a vu que cette femme faisait une sorte de tricot, et ça l'a intéressée, parce qu'elle n'avait jamais vu cette manière de faire du tricot. Et elle a dit, mais moi, je rêve depuis longtemps de faire des espèces de trompe-l'œil. Et, puisque le jacquard, en fait, c'est comme un... ça peut faire du trompe-l'œil. Et cette femme a dit qu'elle pouvait le faire. Et elle a fait travailler d'autres amies arméniennes à elle, puisque les arméniennes savaient presque toutes faire ce point. Elle a l'idée de quelque chose et elle voit quelqu'un qui pourrait le faire. Ce qui est très beau, c'est que c'est fait de manière extrêmement artisanale par quelqu'un qui ne sait même pas que... Si vous voulez, aujourd'hui, ces pulls sont au musée, c'est quand même dingue.
Mansarde était de plus en plus envahie et les dessins de plus en plus audacieux. Plus haut les épaules, ramenez le buste à sa place normale. Placez les rembourrages sur les épaules. Supprimez l'ingrat de voussure. Remettez la taille où elle doit être. Allongez les robes. Sur les sweaters, elle plaça des dessins du genre nègre de son invention et des dessins du Congo. Sur l'un d'eux, il y avait des tatouages de marins avec serpents et cœurs percés. Il y eut aussi le jersey squelette qui choqua les bourgeois, mais attira l'attention des journaux alors peu soucieux de la mode. Des raies blanches suivaient la ligne des côtes et la femme qui le portait semblait traversée par des rayons X.
One seems thousand times much more mad and delirious que Dali because smash one dragon, this dragon appear plenty of fleur de lis in the tummy of this dragon, and also create gardens and create chimeras avec artificial animals.
La photo où elle porte ce pull date de 1927, je crois. Ou celui-ci. Mais il y en a un autre qu'elle porte elle-même. C'est une photo de Thérèse Bonnet qui date de 1927 où elle porte un pull magnifique qui est asymétrique parce qu'elle aimait beaucoup la symétrie. Donc il y a déjà l'idée du trompe-l'œil déporté. Sur la photo, on la voit en plus avec deux petites broches, parce qu'elle aimait beaucoup mettre des petites broches sur ses vêtements. À l'époque, déjà, beaucoup de maisons ont réalisé de la maille. Sonia Delaunay faisait beaucoup de pièces de maille. Mais cette pièce-là l'intriguait parce qu'elle la trouvait plus solide. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans sa biographie. Elle se tenait. Et ce qui était intéressant, c'était l'aspect aussi chiné, parce qu'elle était tricotée avec deux fils. Donc on voyait à la fois le blanc et le noir. Et ça donnait un aspect un peu chiné qu'elle aimait particulièrement. Et c'est ce qui va lancer sa carrière. Et c'est en voyant ces pulls portés par elle-même que ses amis, d'autres femmes vont être attirées par le modèle et lui demander de réaliser le même.
Skiap dessina aussi des poissons frétillant sur l'estomac pour des costumes de bain. Fascinée par l'exemple de Lindbergh traversant l'Atlantique, les gens s'emballèrent pour l'aviation. Skiap imagina des tenues d'aviateur, des tenues de sport, des tenues de golf. Et sa première robe du soir, enfin.
C'est vrai qu'elle entre par la petite porte, notre chère Elsa, puisqu'elle commence très simplement avec des vêtements plutôt de villégiature. Ce n'est pas des vêtements de jour, on est dans le sport, ce n'est pas encore le sportswear. En tout cas, ce sont des pièces portées plutôt en été et dans les grandes villes du sud, à Biarritz. Enfin, c'est vraiment estival. Et donc, il y a, un aspect plutôt informel. Qui est très important puisque ça lui permet justement de s'exprimer très librement sans pour autant avoir cette structure de la couture qui est extrêmement rigide, avec en plus des rites de passage où il faut avoir des collections qui se composent à la fois des pièces de jour, de soir, pour l'été, pour l'hiver. Là, elle se lance avec une pièce, le pull. Juste une pièce. C'est quand même une très belle histoire.
Petit à petit, elle a commencé à avoir envie de faire des choses en tweed. Elle a fait des tailleurs là-dedans, elle a fait des robes de chantougne, elle a fait des chandails tricotés en point mousse pour le ski. Elle était d'une très grande exigence, mais elle avait raison. Parce qu'elle voyait des choses, elle voyait ces choses en somme finies, ce qu'elle désirait, elle le voyait fini, elle ne savait pas du tout comment la technique allait s'y prendre. Et les vieux routiers de la couture, quelquefois, se regimbaient en disant « Mais c'est pas possible, c'est pas possible. » Total, ils avaient un amour propre, et ils fonçaient, et ils faisaient, et c'était la réussite.
Dans les années 20, la couture est un monde extrêmement excitant, où il y a beaucoup de moyens, et surtout une liberté absolue d'expression. On vient de vivre la Première Guerre mondiale. Les femmes ont une place prépondérante et ce sont les femmes qui s'accaparent de la couture. Que ce soit Chanel, Vionnet, Schiaparelli, Lanvin, Louise Boulanger, Gray plus tard avec sa première maison Alix, on est devant une créativité exclusivement presque signée par des femmes pour des femmes. Et là, on va voir un véritable changement dans l'histoire de la mode.
Nous sortions d'une grande époque où les tons pastels, puisqu'elle a ouvert en 1928, nous sortions de la grande couture, vous savez, Chanel, Patou, avec des coloris pastels très suaves, très doux. Et d'un seul coup, elle a fichu un coup de poing dans tout ça et elle habillait les femmes en noir et blanc. Vous savez, ça a été une révolution. Elle a fait en somme la femme en noir avec une petite cravate blanche, une chose comme ça, c'était extraordinaire.
On dit qu'elle était entrée en concurrence directe avec Mademoiselle Chanel.
Mais non, ça c'est des petites affaires de femmes. Je sais qu'elle ne s'aimait pas, mais enfin, ça n'a pas dû être très grave. Peut-être qu'elle se faisait l'œil de verre dans le couloir du Ritz, c'est possible.
Elsa Schiaparelli se pose comme le mannequin de ses propres collections, qui peut la rapprocher de la démarche de Chanel, qui fait un peu la même chose. Gabrielle Chanel est photographiée sur des photos qui sont bien connues dans son salon du Ritz, portant ses grandes robes des années 30, ses grandes robes en dentelle, robes du soir, qui ont fait sa célébrité des années 30. Et c'est intéressant de voir que les deux ont un peu la même démarche, bien qu'elles étaient tout à fait rivales. On sait que Elsa Schiaparelli n'était pas vraiment appréciée de Gabrielle Chanel, qui avait souvent la dent très dure et qu'il parlait d'elle en tant que, elle disait, l'italienne qui fait des robes.
Le 21 Place Vendôme, ça marque vraiment, dans la carrière de Schiaparelli, une étape vraiment décisive. C'est-à-dire que c'est vraiment la grande maison de couture, Place Vendôme, une adresse extraordinaire. Jean-Michel Franck réalise pour la boutique cette fameuse cage que nous avons toujours ici au quatrième étage, qui est une cage en bambou qui se trouvait à l'entrée de la boutique. Quand on rentrait dans la boutique, Schiaparelli, on passait par cette cage qui était très symbolique pour Schiaparelli. Et dans cette boutique, elle proposait du prêt-à-porter, des accessoires et ses parfums, bien sûr, qui étaient vendus ici au rez-de-chaussée.
Jean-Michel Franck imagina une cage dorée pour le naissant appartement des parfums. Et Bettina Jones fit la célébrité des devantures. Elle les habillait, ses fenêtres, avec presque rien, car Schiap était toujours plutôt avare en la matière. Mais Bettina les rendait amusantes, audacieuses. C'était les dernières nées éclatantes du quartier qui renversaient toutes les traditions.
Et c'est là où tout change. Tout change parce qu'elle crée sa propre maison où elle peut justement suivre les rites de passage de la haute couture parisienne, notamment déjà pouvoir recevoir ses clients et faire des défilés de mode au jour fixé pour chaque collection. Et donc, elle trouve sa place, enfin, à partir de 35.
La haute couture d'avant-guerre, c'était vraiment l'élégance, avec les femmes les plus riches du monde entier, supra-élégantes, couvertes de broderies, couvertes de choses luxueuses.
On va avoir une période particulièrement faste, on va dire, de 1935 jusqu'à la déclaration de la guerre, 1939, c'est 4 années.
C'est 4 années bien remplies et où elle laisse véritablement sa signature.
Pamela Golba.
Déjà, comme elle est entrée par une porte dérobée, si on peut l'appeler ainsi, elle a d'autres façons de travailler. Elle va introduire de façon systématique les collections à thème. Ce qui lui convient tout à fait parce que elle raconte des histoires, des très belles histoires, mais avec toujours des silhouettes extrêmement bien composées, incroyablement bien proportionnées, avec un aspect théâtral qui lui convient tout à fait.
Et c'est ça qui va faire la renommée à la fois de la maison, mais aussi la déclinaison de son vocabulaire stylistique.
Vous pourriez nous décrire une silhouette, Schiaparelli? Est-ce qu'il y a quelque chose de reconnaissable? Vous parliez des épaules, je crois quand même, des épaules très, très marquées.
Les épaules, elles étaient toujours très très marquées, enfin surtout dans les années 30.
Bertrand Guillon.
Même plus que marquées, parfois c'est vraiment très très affirmé. Mais on voit des paddings, des effets de montage qui accentuent encore plus l'horizontalité du corps au niveau des épaules, mais qui est toujours contrasté par des corps petits, assez ajustés, et des lignes, là cette fois-ci, très verticales, les jupes très longues, comme des colonnes. Des tailleurs du jour aussi très appuyés au niveau du corps, mais toujours, toujours très épaulés, et des jupes droites, parfois un peu entravées, assez longues, qui allongent le corps des femmes et qui leur donnent aussi une certaine assurance. Une femme en Schiaparelli se sentait certainement plus sûre d'elle. C'était une mode pour une femme qui avait certainement du caractère.
Que ça soit des broderies opulentes, que ça soit des accessoires à la fois humoristiques, mais très justes dans leur déclinaison. Il y a comme ça cette silhouette longiligne, très élégante, extrêmement bien proportionnée et structurée autour d'un corps de femme qui est sublimé par tous ces couturiers des années 30.
Nous travaillons beaucoup, mais nous nous amusions aussi beaucoup. Les collections se succédaient avec chacune un thème défini. Il y eut la collection païenne, où les femmes avaient l'air de sortir d'un tableau de Botticelli avec des couronnes et des pétales de fleurs délicates brodées sur des robes classiques longues, enveloppantes. Il y eut la collection astrologique avec horoscope, étoiles, la lune et le soleil frémissant partout avec ses rayons. La collection la plus tumultueuse, la plus audacieuse, fut celle du cirque Barnum, quand Bailey, Grock et les Fratellini furent lâchés en une folle sarabande dans les dignes salons, dans les escaliers imposants, dans les fenêtres et au dehors. Clowns, éléphants, chevaux devinrent les tissus imprimés avec la mention « Attention à la peinture ». Ballons tenant lieu de sacs, guêtres de gants, cônes de glace glacée de chapeaux, et puis des chiens dressés et des singes savants. Fait surprenant, Schiap ne perdit pas une seule de ses riches clientes aux goûts conservateurs et sages, mais en gagna de nouvelles, dont, bien entendu, toutes les vedettes.
Il y a aussi la cape Phébus, effectivement, qui est brodée de ce soleil absolument extraordinaire, toujours par la maison Le Sage, sur un tissu de laine shocking. Donc là, on a vraiment, en termes de code, il y a tout. Il y a la cape, il y a la couleur shocking, et puis il y a la broderie incroyable de ce soleil, qui est un symbole très Schiaparelli. D'une part, qui rappelle le soleil des balustrades de la maison de couture, Place Vendôme, qui reproduisent un soleil. Et puis, parce que le soleil était très présent aussi dans ses collections. C'est une pièce qui me fascine, d'une part parce que c'est une cape, et j'adore les capes. Et c'est pas n'importe quelle cape, là, parce que la coupe de cette cape était assez particulière. Elle en réalisait de nombreuses. Ensuite, parce que c'est shocking, c'est un rose tout à fait particulier qui a une force incroyable. C'est une couleur qui va sur tous les types de peau. C'est aussi une couleur extrêmement audacieuse. Et puis cette broderie sublime de la maison Le Sage. Quand on pense à Schiaparelli, C'est la première pièce qui me vient à l'esprit.
Marie-Sophie Caron.
Cette carte, elle a été immédiatement illustrée dans un Vogue, le Vogue parisien de novembre 1938, par un génial artiste qui s'appelle Christian Bérard, décorateur de Cocteau pour La Belle et la Bête. Il a dessiné pour les journaux de mode et il a rendu un dessin de cette cape portée par une élégante. Et ça permet de bien saisir que c'était à la fois un vêtement qui peut paraître extraordinaire et finalement plus proche d'un costume de théâtre. Mais non, c'était un vêtement élégant conçu pour une femme qui pouvait le porter lors des grandes soirées qui rythmaient la vie de la haute société de l'époque. Ce qui est aussi caractéristique, outre ce soleil rayonnant qui a été brodé par la maison Le Sage, c'est cette couleur rose que Schiaparelli a inventé grâce à des essais d'un parurier, Jean Clément, qui a travaillé très étroitement avec elle pour lui soumettre une gamme de couleurs. Et c'est elle qui a choisi cette couleur rose éclatante et qui est devenue le shocking pink, qui devient la couleur dominante de sa maison, sa marque de fabrique. Elle donne même le nom avec le mot shocking, donc qui reprend la dimension provocante aussi de sa couture. Elle le donnera à son premier parfum en 1937, donc un an avant la création de cette cape, et également à son livre de souvenirs qui paraîtra en 1954, qui s'appelle Shocking Life.
Les vaporisateurs envahirent toute la cage dorée et, en montant les escaliers, les gens s'arrêtaient pour recevoir un jet. Bébé Bérard adorait se faire parfumer la barbe jusqu'au moment où il coulait sur sa chemise déchirée et sur le petit chien qu'il tenait dans les bras. Marie-Louise Bousquet, la spirituelle hôtesse d'un des derniers salons parisiens, la femme de tous les jeudis, relevait sa robe et aspergeait son jupon. Dali me faisait de fréquentes visites. Nous créâmes ensemble le manteau à nombreux tiroirs d'après un de ses fameux tableaux. Le chapeau noir en forme de soulier avec un talon de velours dressé comme une petite colonne fut une autre de nos innovations. Madame Reginald Fellows, Daisy pour ses amis, la femme parfaitement habillée dont on parlait le plus, le dernier cri de l'élégance à cette époque, eut le courage de le porter.
Ce chapeau-chaussure a été publié dans la presse,
Marie-Laure,
dans l'Officiel de la mode et de la couture d'octobre 1937. Et on le voit porté alors avec un tailleur noir qui est bordé au niveau des poches et du col de motifs de lèvres qui sont brodés, des lèvres rouges. Et la version qui est proposée sur cette photographie est la version à talons rouges.
Il y avait aussi un autre chapeau qui ressemblait à une côtelette d'agneau avec un blanc au bout de l'os. Celui-ci, plus que tout, contribua à assurer la réputation d'excentricité de Schiap. Elle le porta sans sourciller et certains chroniqueurs ne l'ont jamais oublié.
Dans cette manière justement de travailler en symbiose en fait avec les artistes, parce que vous nous parliez, Bertrand Guillon, de cette robe donc squelette, mais il y a aussi la robe tiroir qui est vraiment liée à l'œuvre même de Dali.
Oui.
C'est-à-dire que ce ne sont pas des artistes qui viennent ponctuellement pour faire une petite collaboration, mais c'est vraiment un lien plus profond.
Oui.
Ça, c'est novateur. C'est une des premières à l'avoir
fait. C'est la première qui a eu l'idée de demander à des artistes majeurs de sa génération, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas forcément des artistes inconnus. À l'époque, Salvador Dali est un artiste extrêmement connu, comme Cocteau également. Elle travaillait aussi avec Giacometti, elle a travaillé aussi avec Vertès, avec Christian Bérard. Mais Dali a compris que Schiaparelli, c'était la maison du moment. Je crois qu'il y avait aussi, si vous voulez, entre deux, à la fois un rapport amical, mais je pense que Schiaparelli a travaillé avec Dali, tout comme Dali a travaillé avec Elsa Schiaparelli, parce qu'ils étaient du même niveau et de la même notoriété.
Non, ça n'avance pas. J'ai encore 4 toiles à faire pour demain. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Vous avez jusqu'à jeudi prochain pour faire la moitié de vos modèles. Mais vous parlez sérieusement? Bien sûr, ma chère Paulette. D'ailleurs, vous saurez très bien vous arranger. C'est dire que ça ici s'arranger. Passe-moi la craie.
Évidemment, il fallait rivaliser d'élégance, porter les dernières nouveautés. Et le magazine Vogue, le magazine parisien à l'époque, pouvait se faire l'écho de ces soirées et apporter des commentaires tout en désignant les clientes. Et consommer de la mode, de la couture à l'époque, avait donnait ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler un vernis social mondain qui faisait vivre évidemment l'industrie de la couture.
Mais à quoi elle correspondait, la clientèle, justement, d'Elsa Schiaparelli? Comment pourriez la décrire en quelques mots? À quelle femme elle s'adressait, en fait?
Elle a eu une clientèle très internationale, elle-même, du fait de son parcours. Elle a beaucoup voyagé, elle a aussi... c'était l'époque aussi du cinéma d'Hollywood, avec les vedettes de cinéma américaines qui venaient à Paris pour s'habiller. Et elle a eu une clientèle de vedettes américaines très importante. Évidemment, on peut penser à Marlène Dietrich, par exemple. Elle a aussi habillé, par exemple, Catherine Hepburn. Catherine Hepburn étant un peu à part, cette silhouette qui pourrait faire penser à une silhouette de garçon manqué, a trouvé dans les vêtements de Schiaparelli une mise en valeur de sa féminité. Elle a aussi eu une clientèle de richissimes américaines d'Amérique du Nord, mais aussi d'Amérique du Sud, qui avaient des pieds-à-terre fastueux en France, à Paris, à Versailles. Et cette clientèle étrangère cosmopolite, au fond, trouvait chez Elsa Schiaparelli cette dimension internationale qui leur convenait.
Dans cet admirable hôtel où la princesse Mathilde a reçu, j'imagine, tous les hommes de lettres et les artistes de son temps, j'imagine que vous aussi vous recevez beaucoup d'artistes d'aujourd'hui.
Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avoir des artistes.
Et en particulier les peintres.
Les peintres, pas mal de peintres toujours viennent ici. J'adore la peinture. J'ai beaucoup d'amis parmi les musiciens, Sauguet, Auric, enfin tous les modernes.
Et parmi les chanteurs, interprètes qui fréquentent votre hôtel?
Oh, j'ai des quantités, vous savez, des quantités. Je ne sais pas, Jean Sablon, Juliette Gréco, quantité de Brésiliens. Et puis il y a des Italiens, parfois, comme Modugno, par exemple.
Oui, c'est vraiment le monde qui deviendra la Café Society des années 50. Elle en fait partie intégrante. On vient chez elle comme si on allait dans une des plus grandes maisons parisiennes. Et donc, le succès est absolument au rendez-vous. Il faut le dire que la plupart des femmes dans la couture des années 20 et 30, les grands couturiers de la mode qui sont femmes, ont trouvé dans la mode, dans le milieu de la mode, un statut social. Non seulement un statut social, mais aussi une réussite financière. Parce que ce soit effectivement Elsa Schiaparelli qui se retrouve sans mari avec un enfant à charge, ou quelqu'un comme Jeanne Lanvin qui a vécu la même chose, Madame Vionnet également est divorcée 2 fois, ce sont toutes des femmes qui ont fait un chemin remarquable à un moment donné où la femme, il fallait mieux qu'elle soit à la maison et qu'elle soit femme au foyer. toutes les femmes des années 20 et 30 ont eu des histoires personnelles avec pas mal de défis et elles ont pu justement se relever en proposant un point de vue très particulier et très personnel à chacune dans le milieu de la mode.
On peut peut-être aller voir le
manteau.
Le manteau, si vous voulez bien.
Oui.
Marie-Sophie Caron, conservatrice en chef du patrimoine du musée des arts décoratifs.
Il est assez incroyable, on dirait un manteau militaire, c'est un manteau en laine avec des boutons dorés.
Oui, oui, il s'agit effectivement d'une redingote, d'un manteau qui appartient à la dernière collection de Schiaparelli qui a été présentée le 3 août 1939. Et donc un mois avant la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni. L'inspiration militaire est, évidemment peut faire penser aux événements qui ont accompagné la création de ce modèle. Ce manteau qui, tout en ayant cet esprit militaire, garde aussi un certain souvenir du caractère humoristique des collections d'Elsa Schiaparelli, puisque cette dernière collection s'appelait Cash and Carry. Cash and Carry pour expliquer qu'elle comportait d'énormes poches partout. Et que ça avait une fonction, c'était pour une femme qui était obligée de partir à la hâte et de partir sans son sac pour emporter tout ce qui lui était nécessaire.
La collection de 39 a été une collection splendide. Vous ne pouvez pas vous imaginer les balles qu'il y a eu pendant cet été 39. Comme si le monde allait s'écrouler, que les gens dansaient une dernière fois, mais ça a été quelque chose de fou.
Elle quitte Paris, elle va aux États-Unis pendant la guerre et elle laisse sa maison de couture qui va continuer à fonctionner.
Beaucoup de maisons restent ouvertes pour que les ouvrières puissent continuer à avoir de quoi nourrir la famille. Donc c'est des choses très terre à terre, mais extrêmement importantes. Et donc justement pour elle, c'était primordial que ces femmes puissent continuer à travailler et à toucher un salaire. Pendant son séjour en Amérique, elle fait ses tournées où elle explique aux femmes américaines comment s'habiller, qu'est-ce que c'est la mode, comment constituer une garde-robe, comment acheter. Et elle va faire aussi des collaborations artistiques où elle monte des expositions, notamment avec Marcel Duchamp. Et donc, en fait, c'est son langage quotidien. Elle ne sait que collaborer avec des artistes, collaborer avec des personnalités, collaborer avec ses artisans, que ça soit les brodeurs avec le sage, que ça soit avec les faiseurs de boutons. Toutes les gens qui étaient autour d'elle, vraiment étaient dans une étroite collaboration dans le travail quotidien. Et donc, c'est quelque chose qu'elle va continuer, même hors France, aux États-Unis, avant son retour après la guerre.
Madame Schiaparelli, en ce qui concerne la mode.
Alors, évidemment, en ce qui concerne la mode, il y a un style qui est très défini aujourd'hui. Mais j'appelle ça un style de choc. C'est-à-dire un style qui ne sait pas très bien où il va, qui essaie beaucoup de choses. Alors on dit, c'est 25, c'est 20, c'est 1900, c'est ceci et cela. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. C'est un style excessivement moderne qui se forme en ce moment et qui viendra donner aux gens ce qu'ils ont besoin. Parce que les gens ont besoin maintenant des choses très simples, mais ils aiment l'extravagance, comme toujours. Quand les moments sont difficiles, les grandes extravagances arrivent.
Est-ce que vous croyez qu'on peut d'ores et déjà définir les grands caractères, les caractéristiques d'un style 1950?
Non, ça je pourrais vous dire dans 25 ans, et peut-être dans 25 ans, les femmes seront habillées avec des choses électriques.
Comment
des couleurs roses, vertes, comme ça.
Elle revient, la maison de couture est toujours là. Je crois que les collections qui ont été faites ne lui conviennent pas forcément, mais en tout cas, voilà, la maison a été sauvegardée. Et puis là, on arrive dans un autre monde pour elle, quand même. Ces années d'après-guerre, elle va avoir un rapport à la mode un peu différent. En tout cas, ses collections sont différentes.
La mode vit pas hors circuit, ça fait partie de la vie quotidienne. Et dans la société quotidienne, après la guerre, tout change. Et surtout, le statut de la femme. La femme doit rentrer à la maison, elle doit devenir une femme, et surtout une mère, et une femme au foyer. Et donc on voit un changement radical dans les acteurs de la mode. Beaucoup de maisons vont fermer. On avait plus de 120 maisons de couture avant la guerre. Après la guerre, il y a presque trois quarts qui ferment leurs portes. Donc déjà, il y a une réalité très concrète d'une transformation de l'industrie. Et surtout, il y a l'arrivée de Christian Dior en 1947. Il ne faut pas l'oublier, qui va radicalement changer la silhouette. On est ensuite face à une espèce de silhouette déclinée par toute la mode, c'est-à-dire le new look. On retourne à l'époque de la crinoline. On est vraiment un retour au Second Empire, avec cette femme trophée qui va accompagner son mari et qui va elle-même porter la richesse de sa maison. Et donc, cette femme fleur est mise au goût du jour par Christian Dior. Et beaucoup de maisons ouvertes par des femmes vont fermer. Et c'est plutôt un retour au couturier homme. Christian Dior est le chef de file, Pierre Balmain. Mais il y a aussi d'autres maisons qui vont également fermer. Jacques Fatt, par exemple, va fermer ses portes la même année que Schiaparelli en 1954. Donc on peut dire que son retour a dû être doublement difficile. Déjà, faire un état de Paris après ces années de guerre et de rationnement, et surtout de voir que sa mode n'est plus à l'ordre du jour.
Quand on observe bien son œuvre, on s'aperçoit que quand elle est confrontée à une nouvelle France, nouveau Paris, et avec l'arrivée de jeunes couturiers nouveaux qui vont ouvrir leur maison à la fin des années 40, avec bien sûr surtout Dior, qui ouvre sa maison en 47, mais après plus tard Fatt, Balmain, et puis bien sûr Monsieur Givenchy en 52. J'ai l'impression qu'elle y a une sorte, non pas de nostalgie, mais elle puise aussi un peu ce qui ont fait ses succès passés en les réinventant. Elle reprend des choses pour une sorte de flashback assez régulièrement, comme ça, des coupes. Dans les coupes aussi, on le retrouve assez régulièrement. Mais c'est beaucoup moins fort, quelque part, selon moi. Moins spontané, oui, ça c'est évident.
C'est pour ça qu'elle arrête en 1954.
Je crois que c'est pour des raisons financières, et elle le dit très clairement. Il n'y a plus la même clientèle qu'avant la guerre, d'une part, et surtout la même clientèle pour sa vision de la mode. Les robes, effectivement, sont beaucoup plus chères après la guerre qu'avant. Et elle est effectivement assez déçue par ces transformations. Et elle décide de fermer sa maison. Elsa Schiaparelli, après la fermeture de sa maison, reste Elsa Schiaparelli. Ça ne change pas. Je trouve intéressant qu'elle décide de se faire habiller par Yves Saint Laurent, par exemple. Et ça, c'est très important, à la fois pour ce lien. On parle beaucoup du rapport entre Yves Saint Laurent et Chanel, mais les rapports entre Yves Saint Laurent et Elsa Schiaparelli sont très très forts également. Forts déjà dans un premier temps, il l'habille. Donc ils se connaissent intimement, puisque habiller quelqu'un, c'est vraiment lui créer cette seconde peau. Et on voit, comme par hasard, la couleur arriver dans la palette d'Yves Saint Laurent également. Et cette couleur peut être tracée directement dans l'œuvre d'Elsa Schiaparelli. Donc il y a à la fois cet uniforme que Saint Laurent va créer grâce à son lien avec Chanel, mais aussi cet embellissement du vêtement qui vient directement d'Elsa Schiaparelli, ainsi que une silhouette avec des proportions qui ressemblent très précisément au costume tailleur d'Elsa Schiaparelli, les épaules, hein, surtout ses épaules. Et on voit son influence dans les tailleurs qui seront signés par la suite par Yves Saint-Laurent.
Schiaparelli a habillé tout le Gotha de l'entre-deux-guerres et de nombreuses actrices, dont Arletty, qui a gardé une grande admiration pour cette créatrice.
J'ai dû la connaître, je pense, en 30. Elle était venue au Moulin de la Chanson, où je jouais Plus ça change, vraiment le petit chef-d'œuvre écrit par Rip. Alors ça, tout lui avait plu, les costumes lui avaient plu, ça l'avait enchantée. Alors elle est venue me demander après, dans ma loge, si elle se ferait un plaisir de m'habiller. Je ne savais pas qui elle était, moi, vous comprenez. Je ne savais pas, j'ai dit oui tout de suite. Elle a bouleversé la mode. Mais je l'admirais, j'admirais quand elle faisait les pulls verts, quand elle faisait tout ça. Je l'ai admirée tout de suite, cette femme-là. Et elle a fait sa première robe du soir pour moi, pour un grand gala, vous savez, avec la jeunesse dorée, les deux, les ducs, les tout ça, qui s'appelait les Amis de la France. Elle m'a fait une robe sensationnelle.
Elle va mourir en 1973, à peine 2 ans après Chanel, et au même temps que Cristobal Balenciaga. Il n'y a que Madeleine Vionnet qui va arriver presque à 100 ans, parce qu'elle, pour le coup, elle va décéder en 1976. Mais c'est vrai qu'on voit, c'est aussi une question générationnelle. Ces grands ponts de l'histoire de la mode vont presque naître tous au même temps et vont également décéder au même temps. Et c'est là où il y a une véritable histoire de la mode qui est close, mais avec ce maillon qui se continue grâce à des influences qu'elle donne ou qu'elle partage avec quelqu'un comme Yves Saint-Laurent, par exemple.
Elsa Schiaparelli, Shocking Life. Une émission proposée par Christelle Le Polothèque. Avec Bertrand Guyon, directeur de style de la maison Schiaparelli. Sophie Fontanelle, auteure de La Vocation. Pamela Golbin, conservatrice générale. Et Marie-Sophie Caron, conservatrice en chef du patrimoine au Musée des Arts Décoratifs. Avec également Marie-Laure Guton, responsable du département des accessoires, et Sophie Grossior, conservatrice générale du Palais Galliera. Les voix d'Elsa Schiaparelli, de Salvador Dali, de Madame Michel et d'Arletty. Lecture de Shocking Life, l'autobiographie d'Elsa Schiaparelli par Edith Scobb. Prise de son, Marc Garvenès et Hervé Dubreuil. Mixage, Jean-Michel Bernot. Réalisation, Ghislaine David. Un merci tout particulier à Cédric Edon et Bertrand Guyon de la maison Schiaparelli.
Schiap est à Hammamet, dans le demi-jour de la Moucharabia. Elle est étendue sur un sofa orange, fait en cuir du Maroc, par Jean Franck. Elle est enveloppée dans une couverture écossaise de couleurs vives, jaune et noire. Elle est entourée de banquettes arabes en ciment, où sont posés des coussins fabriqués au bazar local. Et par terre, il y a un tapis en paille de Hammamet. Elle est environnée d'une quantité de petits chapeaux italiens achetés aux Galeries Lafayette. Autour d'elle, il y a une serviette de cuir acquise à New York, un porte-cigarette en argent et en émail rose, trouvé à Leningrad, une machine à écrire ultra-moderne, dont elle ne se sert qu'avec un doigt, en faisant très attention, qui vient de Suisse. Des boîtes d'allumettes suédoises, des cigarettes turques, un cendrier fait d'un débris de poterie venant des pays de nulle part, rejeté par la mer. Voilà Schiap absorbant l'univers de sa petite façon humaine, tandis qu'au dehors, un orage courbe les eucalyptus et les cyprès et inonde de pluie cette terre de soleil et de rêve. À ses pieds est couché Gourou Gourou, un chien tibétain royal et indifférent. Tous deux écoutent un petit oiseau qui, dans un instant d'affolement, s'est réfugié sous le toit de la mouche arabia et qui chante « Ouvrez-moi la porte, ouvrez-moi la porte, ouvrez-moi la porte, ouvrez-moi la porte, ouvrez-moi la porte !»
C'était « Une vie, une œuvre » proposée par Irène Omelianenko et Claire Poinsignon. Vous pouvez réécouter ou podcaster l'émission sur le site de France Culture. Vos commentaires sont bienvenus sur Twitter ou Facebook. Rendez-vous samedi prochain à 16h pour Une vie, une œuvre consacrée à Jean-Luc Lagarce.